Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Bienvenue dans ce journal au micro Nafissa de Moussirfo. Au sommaire de ce journal, le sous-secrétaire général des Nations Unies, Toby Lenzer, de retour de sa mission dans la région de Diffa. Au cours d'un point de presse animé, Toby Lenzer a jugé la situation critique et confirme que des problèmes de financement sont à prévoir. Fin de compétition pour les deux représentants du Niger aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Aucune médaille remportée, ces derniers ont par contre battu leur performance individuelle. La partie magazine de ce soir sera consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2016-2017 dans le secondaire, prévu pour le lundi 19 septembre. Bonsoir à tous. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme à propos du financement de leur opération humanitaire dans la région de Diffa. Le sous-secrétaire général des Nations Unies, coordinateur régional Toby Lenzer, vient d'effectuer une mission de 3 jours. À son retour hier soir, il a tenu une conférence de presse au siège d'Ocha, Niger. Il tire une sonnette d'alarme. La situation est critique selon lui et confirme que des problèmes de financement sont à prévoir. Il est au micro de Habibou Garba.
Juste autour du bassin du lac Tchad, on a plus de 9 millions de personnes qui sont en détresse, plus de 6 millions de personnes dans une insécurité alimentaire sévère. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'actuellement, au niveau mondial, il y a beaucoup de crises, et des crises qui sont vraiment profondes, larges et critiques, si je peux le dire comme ça. Il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a dans ce continent Sud-Soudan, il y a Yémen. Donc la crise autour du bassin du lac Tchad n'est pas la seule. Donc faire un plaidoyer actuellement n'est pas facile. Et il faut reconnaître que les bailleurs de fonds, qui sont une trentaine de pays qui sont dans des mesures économiques de pouvoir aider avec des financements, et c'est difficile pour eux actuellement, parce que les besoins dans tous ces contextes sont de plus en plus importants.
C'était là des explications du sous-secrétaire général des Nations Unies sur la situation humanitaire de la région de Diffa. Cette année au Niger, les fortes précipitations qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays ont occasionné d'importants dégâts matériels auxquels s'ajoutent des pertes en vie humaine et plusieurs têtes de bétail à emporter. Le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes en collaboration avec les partenaires a effectué des évaluations sur le terrain afin de mieux cerner l'ampleur des dégâts causés par les inondations et le niveau de l'assistance fournie aux sinistrés. Gungu Mahamad Dantani nous fait le point sur la situation.
À la date du 27 août 2016, le bilan des inondations était de 92 000 personnes sinistrées, 38 pertes en vie humaine et 27 blessés. Le nombre total de personnes affectées a triplé comparativement au bilan établi le 25 juillet dernier et qui estimait à environ 30 000 personnes sinistrées. En outre, plus de 26 000 têtes de bétail ont été emportées, 900 hectares d'espaces cultivables inondés et plus de 9 000 maisons effondrées selon la cellule de coordination humanitaire CCH du gouvernement du Niger. Environ 75% des personnes touchées par les inondations sont localisées dans les régions de Maradi, Tawa et Agadez. Les populations sinistrées continuent d'être assistées par le gouvernement avec l'appui des acteurs humanitaires. Au total, plus de 52 000 personnes ont été assistées en vivres et environ 3 780 personnes en articles non alimentaires. Le Niger dispose d'un plan de contingence multirisque qui intègre la préparation à la réponse aux inondations. Ce plan prévoit qu'environ 105 000 personnes sont à risque d'inondation cette année. Plus de 85% de cette population est déjà touchée. Gunguma Mandantani, Studio Kalangou.
Direction Saga, village situé dans le 4e arrondissement de Niamey, et partant à la rencontre des populations victimes d'inondations suite à la crue du fleuve. Elles témoignent du véritable calvaire qu'elles ont subi suite à la montée des eaux. Écoutons-les.
Cette situation nous est arrivée avant-hier aux alentours de 22h. On a fait une sorte de digue sur laquelle nous avons ajouté quelques sacs de sable pour empêcher à l'eau de déborder. Mais à notre insu, l'eau a eu d'autres issues et a envahi tous les quartiers, jusque dans les maisons même. Nous avons évoqué des effets qui peuvent être détruits par l'eau. Une vieille femme m'a dit qu'elle n'a jamais vécu une telle situation. On craint pour nos parents, car ils ne peuvent pas partir nous laisser. Nous aussi, on ne peut pas quitter ces lieux, car nous l'avons hérité de nos ancêtres. Nous voulons que le gouvernement prenne des dispositions. Il y a déjà un projet de construction de digues qui tarde à se réaliser. Si cette digue était construite, l'eau n'aurait pas inondé le quartier.
Propos recueillis par Moutari Mahamadou. Mahmoud Salah, militant de Modène Fa'Lumana, parti de Hama Amadou, est interpellé le 11 septembre dernier et incarcéré à la prison de Diffa. Que lui reproche-t-on? Détail avec Tarnan Foudeye Ahmed.
Mahmoud Salah, militant de Modène Lumana, parti de Hama Amadou, interpellé le 11 septembre dernier et toujours en prison. Pour l'instant, les motifs de son arrestation n'ont pas été précisés. Selon les sources contactées par les studios Kalangou, Mahmoud Salah a été interpellé sur le site pétrolier chinois de Tantamardé, région de Diffa, où il travaillait en tant que consultant. Aux élections législatives de février 2016, il était candidat au titre de Modène Lumana, section de Ngourti. Mahmoud Salah a d'abord été incarcéré à Diffa et ensuite, selon l'un de ses proches, il aurait été transféré en début de matinée à Niamey.
Parlons éducation. Le syndicat national des enseignants et chercheurs supérieurs, SNEX, a déposé un nouveau préavis de grève d'une semaine et ce à compter du 19 septembre prochain. Ce préavis intervient après l'expiration de la grève observée la semaine passée. Le secrétaire général du SNEX, Bakasso Sahabi, fait le point sur la dernière grève.
Par rapport au paiement de salaire, donc c'était deux points essentiels, hein, les arriérés de salaire et les primes de recherche, c'est surtout les deux points fondamentaux. Et sur ces points-là, je crois qu'il y avait trois universités qui étaient surtout concernées. Je parlais de Zander, qui est en première ligne, Maradi, Tawa. Par rapport au salaire, Zander m'a confirmé qu'ils ont eu les 4 mois d'arriérés de salaire. Maradi, sur les 2 mois, ils ont eu un, donc ils attendent toujours août. Maintenant, par rapport aux primes de recherche, jusqu'ici, rien n'a été débloqué par rapport à tout ça. Bon, la rencontre officielle qu'on a eu à faire avec le ministre, c'était le 1er septembre. Donc, c'est suite au préavis de grève qu'on avait déposé. Et il y a eu des échanges et il y a eu des promesses. D'un côté, il y avait des promesses par rapport au salaire au plus tard le 4 dernier. Et aux primes de recherche, c'était le 15 qui était prévu pour régler tout ça. Si on fait le bilan, il a fallu d'abord après le 4 pour que au moins les salaires là, des Zander. D'ailleurs, c'est après la fête qu'ils ont eu les 2 derniers mois. Maintenant, Maradi a eu 1 mois et donc, comme je le disais tantôt, pour le PR, la promesse était le 15, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Voilà.
C'était là le secrétaire général du SNEX, Bakasso Sahabi. Il était au micro de Hama Omar. Les personnes qui occupent les alentours de la mosquée d'Agadez vont être déguerpies sans dédommagement. Selon une source jointe sur place, cela ne concerne en rien les préparatifs d'Agadez-Sokni, mais c'est plutôt dans le cadre de l'extension de l'espace de prière pour les femmes que l'Observatoire islamique voudrait récupérer le terrain. L'Observatoire a saisi les autorités pour faire partir les personnes concernées. À compter d'aujourd'hui, il dispose d'une semaine pour quitter les lieux. Le directeur de cabinet du gouvernorat de la région d'Agadez que nous avons contacté ce matin n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Les représentants du Niger aux Jeux paralympiques de Rio, à savoir Ibrahim Dayabou et Belkissa Mamadou, viennent de finir les compétitions sans remporter la moindre médaille, mais ils ont battu leur performance individuelle. Leur entraîneur Aboubakar Moussa dresse le bilan de leur participation. Il a été joint au téléphone par Tarnan Foudeye Ahmed.
Pour revenir au bilan technique global, il est à rappeler que le Niger, en absence d'une qualification et du minima, a été invité à participer à ces jeux dans 2 disciplines qui nous sont imposées, à savoir le lancer des disques en dame et la vitesse, puis le saut en hauteur en monsieur. Donc, comme je le disais, Pierre de Coubertin disait « l'important, c'est de participer aux jeux ». Nous n'avons pas été sur le podium, mais nos athlètes ont eu à améliorer leur performance. C'est ainsi que Ibrahim Daïeb a réalisé en vitesse un temps de 11 secondes 90 contre 12 secondes 30 son temps au Niger. En saut en longueur, il a effectué un saut de 5 m43 contre 5 m20 au Niger. Et quant à Balkissa Mamadou, elle a effectué un lancer de disque de 13 m25 devant la Sénégalaise, la Coréenne et la Mongolienne sur les 14 concurrents qui sont inscrits pour ce concours.
Sport toujours, la Coupe d'Afrique de Maracana et associée débute demain dans la capitale à Burkinabé. Les joueurs nigériens sont arrivés hier à Ouagadougou. Les équipes nigériennes joueront demain contre les Ivoiriens à 8h heure locale pour les vétérans et à 15h GMT pour les seniors. Écoutons Cissé Ousmane, secrétaire à la communication de la Fédération nigérienne de Maracana, joint au téléphone par Soumana Amadou.
Les jeunes nigériens sont arrivés hier soir, l'équipe senior et l'équipe des vétérans, tels que nous avons vu, ils sont arrivés dans un très bon esprit. Outre le Burkina qui est bien organisateur, nous avons la présence du Niger, du Mali, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Bon, le Cameroun et le Comore, les équipes n'ont pas pu se déplacer pour des raisons de visa. Malheureusement, on a, c'est parce que les représentants de ces pays, à la dernière CAN de Lomé, pour les vétérans, le Niger était en demi-finale. Pour les seniors, nous avons sorti en phase de poule. L'objectif que nous avons atteint à nos deux équipes, c'est de ramener les deux coupes au Niger à la satisfaction de tous les amateurs du Maracana au Niger. Alors, il y a eu beaucoup de supporters nigériens qui ont fait des déplacements à titre personnel. Et même ici, au niveau du Burkina, il y a eu beaucoup de Nigériens qui sont mobilisés, en tout cas, qui viendront supporter notre équipe nationale. L'État a déjà donné l'appui institutionnel, nous permettant donc aux divisions de création de participer à cette compétition. Le reste, nous avons fait ça de par nous-mêmes, de par les sponsors que nous avons contactés. Ça se passe très bien, en tout cas.
Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio Amfani 100 FM et sur la radio alternative 99.4 FM
à Agadez,
sur la radio Nomade FM 101.9 FM
à Arlik,
sur la radio Ikokan 95.1 FM
à Difa,
sur la radio Amfani 100 FM
à Dosso,
sur la radio Farah 92 FM
à Tchirozirine,
sur la radio Azuru 95.1 FM
à Filengi,
sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM
à Tilaberi,
sur la radio Tebonsi 97.5 FM
à Maradi,
sur la radio Garkwa 107 FM
à Tawa,
sur la radio Tambara 107 FM
à Zende,
sur la radio Choukra 105.5 FM. Studio Kalangu. La partie magazine à présent, la rentrée scolaire pour les secondaires est prévue le lundi prochain. Les parents d'élèves, élèves et enseignants s'activent pour cette rentrée 2016 à 2017. Vous entendrez comment les parents d'élèves du privé et du public accueillent la rentrée des classes de cette année dans ce reportage de Habibou Garba.
Faire en sorte que son enfant bénéficie d'un enseignement de qualité, c'est l'espoir de tous les parents. C'est ainsi qu'à l'approche de cette rentrée, à Niamey, ceci redouble d'efforts. Boubacar Wali, lui, a inscrit ses enfants dans une école privée. Il affirme que malgré la morosité économique, il est fin prêt. Pour lui, la rentrée se prépare à l'avance.
Au cours de cette semaine, je me suis présenté à leur école. J'ai eu les tarifs pour les lycées, les collèges. Et au lycée, on nous a demandé de payer 190 000 francs par élève pour l'année. Mais avec des conditionnalités, tu peux payer 50% et après les 25% au cours de l'année. Bon, pour mes deux enfants, j'ai eu à payer 50%, 50% pour les 190 000 francs. Après, on m'a donné le reçu. Après le reçu, on m'a donné la fiche qui constitue les fournitures achetées. C'est ce à quoi je m'attelle maintenant. Et on m'a donné la couleur de tenue uniforme qu'il doit porter durant l'année. Ça se prépare dès la fin de l'année passée.
Contrairement à Wali, Abdou Betoji a inscrit ses enfants dans une école publique. Il dit être soulagé car depuis 3 ans, les autorités prennent en charge les fournitures scolaires dans les écoles publiques. Cependant, son inquiétude concerne le bon déroulement de l'année scolaire.
Et moi, si j'ai bonne mémoire, ça fait presque 3 ou 4 ans que je m'inquiète jamais des fournitures. Parce que l'État fait tout ce qui est possible pour mettre les matériels à la disposition des élèves. Et les enseignants qui s'occupe de ces matériels le distribue convenablement. Mon premier inquiétude, vraiment je ne peux pas comprendre comment le corps enseignant, ils sont ici à Niamey entassés, à l'intérieur du pays. Il y a des classes, il y a des écoles qui manquent des enseignants. Pourquoi regrouper? Là vraiment le gouvernement doit prendre vraiment ses mesures.
La rentrée est prévue pour le 19 septembre prochain. Les autorités académiques affirment que tout est fin prêt. Les syndicats des enseignants sont moins enthousiastes et font valoir ici et là les problèmes d'aérés et de salaires dans beaucoup de secteurs et de régions. Un débat que tous les parents d'élèves suivent avec attention. Habibou Garba, Studio Kalangou.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute du forum du Studio Kalangou. C'est avec Hamadou Moumouni.